Il est 5h, la Suisse s'éveille.
Les petits matins, Georges Pop.
Nous sommes le mardi 13 septembre 2011. Tout à l'heure, le soleil sur le plateau va se lever aux alentours de 7h07. Il se couchera vers 19h53. Une crête de haute pression s'est installée sur la Suisse hier, garantissant un temps généralement stable jusqu'à vendredi. Ce matin, le temps s'annonce assez ensoleillé, même si quelques bancs de brouillard stagnent sur le plateau. Sur le nord du pays, il faudra également compter avec quelques passages nuageux. Cet après-midi, nous repasserons un temps bien ensoleillé, malgré quelques cumulus sur les reliefs. Dans la nuit, quelques gouttes ne sont pas exclues encore sur le Jura et la Joie. Les thermomètres vont afficher entre 24 et 27 degrés au plus chaud de la journée à basse altitude. En tennis, Novak Djokovic a conquis à New York son troisième titre du Grand Chelem de l'année, déjà sacré à Melbourne et à Wimbledon. Il s'est imposé tout à l'heure sur le score de 6-2, 6-4, 6-7, 6-1 en 4h10 face à l'Espagnol Rafael Nadal. Le canton de Vaud a rendu à la cathédrale de Lausanne hier un dernier hommage ému et vibrant à Jean-Claude Mermoz. Le pasteur André Joly a souligné l'enracinement du conseiller d'État UDC alors que Pascal Broulis, le président du gouvernement vaudois, rappelait l'homme d'État et l'ami qui s'en est allé. Plus d'un millier de personnes, dont bon nombre d'élus cantonaux et fédéraux, ont assisté à ses obsèques. À Berne, la promotion des réseaux de soins devra finalement passer par une conférence de conciliation. Le national et les États n'ont pas réussi à s'entendre après 3 allers-retours. Retour. Il y a toujours des divergences sur 3 points, notamment l'incitation financière qui doit pousser les assurés à se tourner vers ces réseaux. La conférence de conciliation devra donc trouver un compromis demain. Et si un des deux conseils, le Conseil national ou le Conseil des États, le refuse, eh bien le projet sera enterré. Malgré cela, le ministre de la Santé se veut confiant. On écoute Didier Burkhalter.
Le Conseil national a éliminé une des plus importantes divergences, c'est-à-dire le montant maximum de la participation au coût. Dorénavant, les deux chambres sont d'accord sur ces montants maximum, qui seront de 1 000 francs pour les modèles actuellement traditionnels et de 500 francs au maximum, pourrait même être plus bas dans la réalité, pour les modèles de réseau de soins intégrés, ce qui est moins qu'actuellement, puisqu'actuellement on est à 700 francs. Donc ce point-là est un point très important qui montre clairement que maintenant on se dirige lentement vers les solutions plutôt que de rester empêtré dans les problèmes.
La bataille politique continue à propos de la taxation des bonus des grands managers. Contrairement au Conseil national, le Conseil des États a décidé hier par 27 voix contre 13 de camper sur ses positions et d'imposer les rémunérations dépassant 3 millions de francs. L'islam sera la principale source de législation dans la nouvelle Libye. Voilà ce qu'a déclaré hier soir le président du Conseil national de transition, Mustapha Abdeljali. Il s'exprimait pour la première fois en public à Tripoli. Le numéro 1 du CNT a tenu ses propos devant des milliers de Libyens réunis sur la place des Martyrs, ancienne place verte à Tripoli, au surlendemain de son arrivée dans la capitale qu'il visite pour la première fois. Nous n'accepterons aucune idéologie extrémiste de droite ou de gauche. Nous sommes un peuple musulman à l'islam. Islam modéré et nous allons rester sur cette voie, a-t-il précisé. Amnesty International, de son côté, accuse le régime de Muammar Kadhafi de crimes contre l'humanité en Libye, mais il désigne aussi les rebelles proches du CNT pour avoir commis des abus qui, dans certains cas, constituent des crimes de guerre. Dans un rapport de 122 pages dressant un constat accablant des exemples de violations pour le régime du colonel Kadhafi, l'Organisation de défense des droits de l'homme note que le Conseil national de transition refuse pour le moment de tenir les rebelles responsables des violations des droits de l'homme qu'on leur impute. Les bourses mondiales ont à nouveau dégringolé hier, affolées par l'hypothèse de plus en plus ouvertement évoquée, il est vrai, d'une faillite de la Grèce, en dépit des déclarations plutôt apaisantes des responsables européens. Wall Street a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu. L'indice Dow Jones a gagné un petit 0,63% hier soir. En Irak, 22 passagers d'un bus venant de Syrie ont été assassinés hier soir dans une région désertique à 300 km à l'ouest de Bagdad. On ne connaît pas les auteurs de ce crime, mais la région a été et reste encore un fief d'Al-Qaïda. En Norvège, avec 13% des suffrages, en recul de 5 points, le parti du Progrès, formation de la droite populiste anti-immigration, semble être le grand perdant des élections locales. Ce vote était considéré comme un scrutin test dans le sillage des attaques meurtrières du 22 juillet dernier par un extrémiste de droite. À Lugano, retour donc en Suisse, à Lugano, la Chambre de commerce du Tessin a proposé hier un large éventail de mesures pour alléger la charge fiscale des entreprises et soutenir donc l'économie et les exportations. Une panoplie qui vient se greffer sur un programme similaire avancé quelques jours plus tôt par le département cantonal de l'économie. On risque ainsi de voir apparaître des doublons. On écoute la réaction de Luca Albertoni, il est directeur de la Chambre de commerce du Tessin.
Oui, évidemment, il faut éviter d'avoir des mesures inutiles qui coûtent trop cher. Ça, c'est le but aussi de notre travail. J'essaierai d'en discuter la semaine prochaine avec mes collègues des autres chambres de commerce et d'industrie et du reste de la Suisse pour voir si on peut trouver des points d'entente, même si les réalités des différents cantons sont justement un peu nuancées par rapport à la position tessinoise peut-être. Mais à mon avis, ça vaut la peine et c'est absolument le but aussi de notre travail de pouvoir partager ça avec les autres cantons, les autres régions.
Luca Albertoni, directeur de la Chambre de commerce du Tessin. 5h et bientôt 5 minutes, on passe à Sport Matin.
Sport Matin, avec café Kiko Doro et sa boisson 105, b-105.ch.
Avec comme chaque mardi hors cadre, la séquence d'Alain Cobel qui reçoit aujourd'hui l'ancien joueur et entraîneur de hockey sur glace, Slava Bykov.
Après la rupture de son contrat avec l'équipe nationale russe au terme des derniers championnats du monde, qu'elle n'a terminé qu'au quatrième rang, Slava Bykov est rentré en Suisse et est aujourd'hui libre de tout engagement.
Je suis pas allé au chômage encore. J'ai pas timbré en Suisse. Je suis actuellement dans une phase de réflexion. Est-ce que je continue avec le hockey sur glace? Est-ce que je vais faire autre chose, du business? J'ai une certaine image vis-à-vis des jeunes. J'ai une fondation avec Fribourg-Gotteron pour la jeunesse. Et on essaie d'aider aux jeunes athlètes qui ont, par exemple, pas assez de moyens pour arriver à réaliser ses rêves. Et même de tout simplement pratiquer le sport.
Et le jeune Slava Bykov, à quel âge a-t-il chaussé les patins pour la première fois?
À partir de 6 ans, j'ai commencé en hiver le hockey sur glace, plus je faisais ski de fond, j'aimais beaucoup. Et l'été, c'est le foot et aussi ski de fond. Donc à 18-19 ans, j'ai pris la décision de faire le chemin dans le hockey sur glace. Puisque je savais que Maradona, il était mon âge, et puis je l'ai laissé débrouiller en foot.
Suivra donc une brillante carrière de hockeyeur professionnel avant d'embrasser la carrière d'entraîneur. Souvenir.
J'ai eu énorme chance de pouvoir jouer dans une équipe formidable en tant que de CSKA de Moscou, de Traktor Chelyabinsk, ou l'équipe nationale russe, l'équipe soviétique, autant Fribourg-Gotteron ou Lausanne Hockey Club. Tous ces souvenirs, c'est la richesse que j'ai accumulée pendant toute ma carrière, pendant 20 ans de travail professionnel. J'en ai eu tellement que je n'arrive pas à citer un seul. Mais peut-être un, je vais citer quand même. On était à Québec, c'était le tournoi Rendez-vous 87. On a joué contre une équipe de Canada avec l'équipe soviétique. C'était les grands stars contre nous. C'est Guy Lafleur avec Gretzky et Messier. Juste avant le match, c'était deux hymnes nationaux. Première, c'était le chœur populaire de Québec qui ont chanté sur la glace l'hymne du Canada. Et après, c'était le chœur l'armée rouge de Alexandrov. Et c'était extraordinaire.
Et ne l'oublions pas, Slava Bykov a la double nationalité russe et suisse. Regard.
Nous, les Suisses, on garde très bien nos traditions et c'est très important. Mais on vient assez ouvert vis-à-vis l'Europe aussi. C'est une bonne chose puisqu'on ne peut pas vivre sans le monde entier. On ne peut pas rester dans notre cocon, mais garder nos traditions, nos habitudes, ils font aussi. Je peux dire aussi, nous les Russes, comme nous les Suisses, nous les Russes, on cherche l'amitié. C'est pour ça qu'on demande libre circulation entre la Russie et l'Europe.
Sport Matin, avec café Kiko Doro et sa boisson 105, b-105.ch.
B105, Bientôt 5h10, merci d'être avec nous sur la première. Voici un petit texte que j'ai découvert sur le site internet de Madame Virginie Bonnet. L'équitation éthologique porte son nom de par la volonté de l'homme de cheval à observer l'animal et le comprendre avant d'établir toute communication. Il utilisera ensuite ses acquis pour établir une relation cheval-homme basée sur le respect, la confiance et la connexion. Cette nouvelle approche est pleinement complémentaire à l'équitation classique, non seulement sur le plan physique, mais également sur le plan mental du cheval. Le cavalier aura ainsi l'opportunité de développer une meilleure relation avec son partenaire pour progresser dans toutes les disciplines. Virginie Bonnet, bonjour.
Oui, bonjour.
Faut venir tout près du micro,
oui,
Virginie
d'accord.
Bonnet. Voilà. Virginie Bonnet, j'ai votre curriculum vitae sous les yeux. Naissance en 1976 à La Chaux-de-Fonds et en 1980 déjà, vous êtes à cheval.
Oui. Exactement.
Ça a été vite ?
Ça a été très vite, oui, oui, sur des petits chevaux de balade de mes parents, mais c'est vrai que j'ai été immergée assez rapidement. Et voilà, je n'ai plus lâché.
Alors, vous êtes issu d'une grande dynastie de bijoutiers.
Exactement.
Et on vous retrouve non pas dans une bijouterie, mais sur un cheval.
Oui.
Il faut nous expliquer ce parcours étonnant.
Je pense qu'indirectement, peut-être mes parents attendaient que je suive un petit peu la même direction que tout le monde. Et puis non, finalement, j'étais partie pour peut-être reprendre éventuellement les rênes les rênes familiales. Mais je me suis finalement décidée de prendre d'autres rênes.
Voilà, voilà. C'est une jolie image, les rênes de l'entreprise familiale, mais non, d'autres rênes.
D'autres rênes qui me conviennent très bien et ma famille est ravie pour moi parce que je suis épanouie et c'est le plus important pour ma famille.
Alors, oui. Avant de parler d'éthologie et de définir hein, l'éthologie, parce que c'est vrai que ça ne va pas de soi pour tout le monde,
oui.
On va parler un peu de votre carrière de cavalière, on dit cavalière,
oui,
je crois.
Tout à fait.
Voilà.
Oui, oui.
Vous avez notamment fait partie de l'équipe suisse.
Voilà, j'ai fait partie de l'équipe suisse junior et jeune cavalier quand j'avais entre 14 et 18 ans. Il faut savoir que j'étais dans le cadre B, c'est-à-dire je n'étais pas au plus haut niveau du cadre suisse parce qu'à ce niveau-là, il faut beaucoup de chevaux, beaucoup de temps et être quasi professionnel déjà.
On ne se rend pas compte à quel point il faut consentir des sacrifices.
Hein, exactement.
Parce que contrairement aux autres sportifs de haut niveau, mm-hmm. il faut non seulement s'occuper de son propre physique, mais aussi du physique de son partenaire.
Principalement, parce que bien souvent, certains cavaliers s'occupent beaucoup moins de leur propre physique
oui.
que de celui du cheval, mais c'est vrai que c'est un énorme travail. En plus, on n'a pas, quand on est à ce niveau-là, on a rarement qu'un cheval. Donc, on a plusieurs chevaux et il faut travailler sur le point de vue physique, mental. On a beaucoup de contacts avec les maréchaux, avec les vétérinaires, les ostéopathes. Donc, c'est un sportif d'élite, en fait, le cheval.
Quand vous dites les maréchaux, c'est les maréchaux ferrants.
Voilà.
C'est vrai que moi qui ne connais très peu le milieu de l'équitation, je me disais qu'a priori, plus on avance, mieux il serait peut-être d'avoir un seul cheval pour établir une sorte de relation privilégiée avec lui. Or, vous me démentez, il y a plusieurs chevaux. Mais c'est facile d'établir une relation avec plusieurs chevaux à la fois lorsqu'on est cavalier ou cavalière.
Alors... Je pense que dans la compétition, on est souvent amené à avoir plusieurs chevaux, mais je pense que tous les cavaliers qui ont justement plusieurs chevaux pourront le dire. À mon avis, on a un cheval dans sa vie. Voilà. Donc, on peut avoir des
très bonnes... C'est l'homme ou la femme de sa vie, quoi, en définitive.
Sans doute, oui.
C'est son partenaire.
C'est son partenaire avec lequel on a vécu des parcours particuliers. Je pense souvent qu'on peut dire on a le cheval de sa vie. Mmh. Oui, mais après, on peut avoir des très bonnes relations et des super résultats avec beaucoup de chevaux.
Oui, c'est comme
sûr.
La vie de couple, quoi, en
définitive. Oui, voilà, exactement.
En quelque sorte. un cheval, est-ce que... Un être humain, une femme ou un homme, peut avoir une véritable relation avec un cheval, ce qui va nous faire glisser vers l'éthologie précisément.
Mais bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de l'éthologie pour avoir une relation avec un cheval. Je pense que tout bon cavalier qui a un petit peu de sentiment, un peu de feeling, va avoir cette sensation. Mais c'est pas seulement avec le cheval, hein, avec n'importe quel animal. Il faut faire preuve d'empathie, d'apprendre à connaître les réactions de l'animal. Et il y a quelque chose de magique qui se produit. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des études pour ça. Et je pense que tout cavalier mérite, ou tout cavalier de loisir, va peut-être un jour connaître cette superbe relation qu'on peut avoir avec l'animal.
Alors, peut-il y avoir une véritable relation, je dirais, affective et de complicité avec un cheval ?
Oui. Alors, quand on parle d'affection, c'est clair que l'humain a cette émotion d'affection Donc il va dégager quelque chose d'émotif envers l'animal. Après, il faut savoir que le cheval ne va pas nous aimer de la même manière que nous on l'aime. C'est-à-dire que lui va nous aimer parce qu'il a une bonne raison de nous aimer. C'est très basique, un cheval. Il nous aime parce qu'il nous lie à quelque chose d'agréable, simplement. Donc il nous lie à le matin, mon cavalier arrive, il m'amène des carottes, super. Donc carotte est égal plaisir, plaisir est égal cavalier. Vous voyez, ça réagit très simplement. Donc il ne faut pas se dire, ah, mon cheval est amoureux de moi, c'est magnifique.
Anthropomorphisme.
Voilà, excessif, il faut faire attention à l'anthropomorphisme, exactement.
On va glisser vers l'éthologie. Éthologie, eh bien, vous savez que nous, les journalistes, nous aimons parfois, pas toujours, hein, je ne vais pas donner des verges pour nous battre, on aime parfois les simplifications. Alors c'est vrai que éthologie, il y a un film, tout simplement, qui a fait le, non pas le tour de la question, mais qui est une bonne vulgarisation. C'est, je crois que ça s'appelait L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux.
Exactement.
Avec Robert Redford.
Exactement.
Alors vous êtes éthologue.
Oui.
Vous êtes, je ne sais pas si on peut dire, parmi les rares éthologues de Suisse. Il doit pas en avoir pléthore. Hein.
Non,
c'est
il n'y en a
un,
pas beaucoup, c'est vrai.
C'est pas un métier très commun. Vous avez appris où l'éthologie?
Alors j'ai appris, je suis partie vers Paris, en dessous de Paris, où il y a un haras très connu qui a développé justement l'éthologie. Il faut savoir qu'en France c'est beaucoup plus développé, mais que le berceau de l'éthologie, du horsemanship on appelle ça, vient des États-Unis. Donc suite à mes études qui étaient un petit peu plus scientifiques sur Paris, je suis partie dans le Montana, chez les cow-boys, pendant une année, où j'ai rencontré de vrais horsemen. Et c'est vraiment là que j'ai...
Belle expérience.
Pardon ?
Belle expérience.
Une magnifique expérience, l'expérience de ma vie. Ça, c'est sûr. La mentalité des cow-boys, la mentalité des vrais horsemen est complètement différente de chez nous. Et c'était magnifique de pouvoir faire le parallèle et de revenir avec un bagage des États-Unis et l'appliquer en Suisse.
Il y a encore des chevaux en liberté là-bas.
Il y en a encore, mais ce n'est plus des vrais chevaux sauvages.
C'est plus les Mustangs de jadis.
Alors, ça reste des Mustangs de jadis, oui. Mais qui ont été réintroduits par l'homme. Des vrais chevaux sauvages, jamais touchés par l'humain. Il en existe peut-être encore quelques-uns en Mongolie.
En Mongolie.
Oui, mais il faut savoir que les Mustangs des États-Unis, au Nevada notamment, sont tués, en fait.
Pourquoi ?
Pour avoir le contrôle des terres, c'est une décision des
autres. C'est cruel,
des
dites-moi.
Ben, disons que c'est pas très intelligent, je veux dire, gardons un petit peu de naturel sur ce territoire.
Virginie Bonnet, cavalière, éthologue, est notre invitée, l'invitée des petits matins. Bon, on va reparler d'éthologie tout à l'heure, après décalage horaire, si vous
volontiers.
Voulez bien. Il est 5h17. Les rouges souliers. Oh, 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 oh.
l'or à la forêt. Je devine tes pensées. Pas la peine de m'engueuler. Tout éponge gorgée d'eau se croit le forme beau. Je pense à cette idée bleue. Je vole dans la nuit des dieux. Oh, 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 oh. Voilà les rouges souliers.
Voilà, c'était Jean-Louis Murat qui dévoile les Rouges Souliers, premier extrait de son prochain opus attendu dans les bacs le 26 septembre prochain et qui portera le nom de Grand Lièvre. Vous savez tout.
Les petits matins.
5h21, ce matin nous sommes en décalage horaire avec le Brésil. Bonjour Élodie Touchard.
Bonjour.
Élodie Touchard à Rio, en direct avec nous. Au Brésil, Élodie Touchard, les chiffres qui viennent d'être publiés tordent le cou aux idées reçues, me dites-vous. On parle souvent de pauvreté au Brésil et on sait qu'il y a encore des millions de pauvres dans ce pays, plus de 16 millions exactement. Mais ce que l'on sait beaucoup moins, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de gens riches au Brésil et il n'y en a même jamais eu autant.
Oui, exactement. Rien que l'année dernière, il y a eu 23 nouveaux millionnaires de plus au Brésil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 155 400 Brésiliens qui ont sur leur compte plus $1 million. Et selon les prévisions, ça ne va pas s'arrêter de sitôt, puisqu'en 2017, le Brésil en aura même 4 fois plus, 675 000 millionnaires. Il sera alors en tête des autres pays émergents dans ce domaine. Un autre chiffre affolant, c'est quand on regarde la liste annuelle, non plus des millionnaires, mais des milliardaires cette fois, la liste publiée par Forbes, et bien là encore, le Brésil a gagné 18 milliardaires entre 2010 et 2011, on est passé de 12 à 30, et au classement mondial, le Brésil arrive dans les premiers, à la 7e place, les numéros 1 ce sont les États-Unis. Hein. Alors, sans parler de ces extrêmes, il y a, c'est vrai au Brésil, de plus en plus de gens qui ont des très gros revenus, il y a des tas d'indices qui montrent ce changement de la société brésilienne. Juste un petit exemple, à Sao Paulo, qui est la capitale économique, il y a de plus en plus d'hommes d'affaires qui vont, par exemple, au travail en hélicoptère, tout simplement.
Et pourtant, je le disais en introduction, grâce aux informations que vous m'avez données, on le sait peu, on parle davantage de la pauvreté au Brésil actuellement.
Oui, effectivement, la présidente Dilma Rousseff elle-même revient d'ailleurs régulièrement sur ce sujet, puisqu'elle en a fait la priorité de son mandat, éradiquer la misère, éradiquer la pauvreté. Et c'est vrai que le gouvernement se plaît à rappeler régulièrement qu'il a sorti de la pauvreté près de 40 millions de Brésiliens depuis 2003, qu'il a permis à la classe moyenne d'augmenter de 47%. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que dans le même temps, les classes les plus aisées ont augmenté encore plus, hein, proportionnellement, ils ont augmenté de 55%. Et cette augmentation devrait continuer ces prochaines années. Alors pourquoi on le dit peu? Eh bien, tout simplement parce qu'on les connaît très mal, ces classes élevées. Il y a très peu d'études sur le sujet. Il y a des quantités d'enquêtes sur les pauvres. Ils sont étudiés à la loupe. Mais en revanche, les sociologues s'intéressent très peu aux riches. Et puis, ils sont difficiles à cerner puisque le fisc, ici au Brésil, refuse de transmettre la moindre information au nom du secret fiscal. Donc, pas facile de faire des enquêtes. Et du coup, même ici, hein, les Brésiliens ne sont pas du tout conscients de cette réalité. Alors bien sûr, ils connaissent la star milliardaire du Brésil, qui est l'homme le plus riche du pays, Ike Batisti. C'est un homme d'affaires qui aime s'afficher, qui fait régulièrement la une des journaux. Mais pour les autres, en général, ils préfèrent rester discrets. Et c'est donc tout ce paradoxe. Les riches au Brésil sont de plus en plus nombreux, mais totalement incognito.
Bon, au fond, Élodie Touchard, à quoi cela servirait de mieux connaître ces riches?
Eh bien, au-delà de l'intérêt purement sociologique, on va dire, ça pourrait permettre aux dirigeants du pays de penser, de proposer une meilleure politique de redistribution des richesses. D'autant que c'est vrai qu'on sait peu de choses sur ces riches, mais il y a quand même une chose dont on est sûr, c'est qu'ils payent très peu d'impôts. Le système fiscal brésilien est injuste. Ce sont les biens de consommation qui sont les plus taxés, bien plus que les revenus ou le patrimoine. Et de fait, donc, ça pénalise les plus pauvres. Alors, est-ce que la situation peut changer d'elle-même? A priori, pas de sitôt. Les riches font de la résistance, on va dire. Ces dernières années, ces 20 dernières années, il y a eu 31 propositions de loi présentées au Congrès national pour que, justement, ces impôts soient plus justes, plus progressifs. Eh bien, devinez quoi, sur ces 31 propositions de loi, aujourd'hui, aucune n'a abouti.
Eh bien, merci de toutes ces précisions, Élodie Touchard. Et on vous souhaite d'abord la santé et accessoirement la richesse, si vous y arrivez aussi. Merci beaucoup. Merci. Et bonne nuit à Rio de Janeiro. 5h25.
Cela fait 40 ans que le kiosque fait jouer chaque samedi les musiques populaires d'ici et d'ailleurs sur la première. C'est au pluriel qu'il vous donne rendez-vous au Théâtre du Jura le 1er octobre. Stress, Caroline, Wind Band Neuchâtelois, Chœur du Collège Saint-Michel, les Akeo, Schweitzer Octet. Samedi 1er octobre, le kiosque à musique souffle les airs en direct et en public de Mézières de 11h à 12h30 sur la première. L'entrée est libre, mais les réservations obligatoires au 058 236 11 25.
Notre invitée au petit matin, Virginie Bonnet, elle est cavalière, elle est éthologue. On parlait tout à l'heure avec vous de ce séjour assez fascinant au Montana où vous avez appris l'éthologie. Est-ce que l'apprentissage de l'éthologie est conforme à l'idée qu'on peut s'en faire en regardant ce film de Robert Redford, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux? C'est comme ça que ça se passe vraiment?
Écoutez, oui, étonnamment oui. Il y a un petit côté Hollywood en plus, avec de belles prises de vue, etc. Mais il faut savoir que la personne qui a doublé Robert Redford est un homme très très connu aux États-Unis, un horseman très connu qui s'appelle Buck Brannaman, avec lequel j'ai eu la chance de travailler quelques jours en stage. Et oui, il y a quand même une reproduction assez juste du métier.
Et le film est-il conforme à la réalité? C'est-à-dire que on arrive en quelque sorte à apaiser, par exemple, les chevaux et à créer un lien de confiance, à améliorer même leur performance en leur murmurant à l'oreille. En leur murmurant quoi d'ailleurs?
Alors, pour répondre à la première question, oui, on arrive tout à fait à apaiser certaines craintes des chevaux, mais non pas en murmurant à leur oreille. Ça, c'est un vieux dicton qu'on leur susurre des mots. Pourquoi on dit ça? Parce que bien souvent, les éthologues, on ne parle pas aux chevaux. Justement, on ne parle pas, on agit beaucoup par le langage corporel. Oui. Donc, vu qu'il n'y a pas de mots, mais là je parle d'il y a quelques centaines d'années, oui. Vu que les horsemen ne parlaient pas, on disait, mais qu'est-ce qu'ils leur racontent à l'oreille? Mais en fait, on se comporte énormément par de la gestuelle.
Mais bon, pour en revenir aux films et aux images que nous avons vues, lorsqu'on voit ces horsemen, comme vous les appelez, ou vous-même, hein, puisque vous êtes éthologue aujourd'hui, lorsque vous vous approchez des chevaux, vous allez vers leur oreille, vous leur dites quelque chose?
Non, rien du tout.
Ah, rien.
Rien du tout, c'est juste du comportement. Mm-hmm. C'est juste du comportement. Que voulez-vous qu'on leur dise à l'oreille, puisqu'ils ne parlent pas de notre langage?
Je ne sais pas, des mots rassurants
Non, alors on peut avoir des intonations de voix.
Voilà.
Il faut savoir qu'un cheval, c'est comme un chien, il peut apprendre certains mots par cœur, d'accord? Il a une quantité de mots qu'il peut assimiler. Mais autrement, non. On peut éventuellement dire des mots apaisants. On dit souvent le « oh oui. », le « comme ça.
C'est vrai que le « il est universel. Hein.
Il
où
est
qu'on
universel.
Aille, où qu'on
oui,
aille.
Oui, complètement. Les Américains font des kiss, ils appellent ça, c'est «
Ah, d'accord.
Et
partout où on peut prendre des calèches, hein, par exemple, comme touriste, on entend cette manière.
C'est un code. C'est un code universel pour mettre le cheval en avant.
Une espèce d'espéranto du cheval.
Voilà, si on veut. Mais en même temps, si on creuse un petit peu la chose, il faut savoir que le fait de parler ou le fait de mettre des mots, c'est aussi beaucoup fait pour nous, pour nous-mêmes, pour nous stimuler, pour nous calmer. Si je monte un cheval un peu dangereux ou un débourrage qui se passe un petit peu...
Débourrage pour le non-initié.
Excusez-moi, oui.
C'est
mettre à la selle un jeune cheval, voilà. Lui apprendre
pas évident, hein, parce
c'est
que...
C'est pas évident, ça peut être délicat et ouais. Si c'est mal fait, ça peut porter préjudice au cheval pour toute sa vie.
Et le cheval peut se rebiffer?
Ah oui, bien sûr. Mm-hmm. Oui, oui.
Parce que c'est quand même une contrainte.
C'est quand même une contrainte, oui, oui, tout
une
à fait.
Une sorte de viol, en fait, de son...
Oui, dans le jargon, on dit ce cheval a été violé complètement. Si ça a été mal fait, on peut dire ça.
Et cela peut avoir des conséquences sur si cela a été mal fait pour toute la suite, en fait.
Oui, oui, j'ai beaucoup de chevaux qui viennent chez moi, qui ont été mal débourrés,
oui.
Et qui en gardent des séquelles, en fait.
Psychologiques?
Psychologiques, surtout, oui. Oui, physique.
Et vous arrivez à les remettre sur le droit chemin, si j'ose dire?
Jusqu'à présent, oui. Je pense pas être intouchable et je pense que je vais un jour tomber sur un cheval qui il y a des chevaux qui restent très difficiles. C'est-à-dire qu'on peut les remettre bien, mais qui restent très délicats. Et si on les donne à des amateurs, le cheval pardonnera beaucoup moins les petites erreurs et peuvent devenir dangereux. J'en ai eu un d'ailleurs récemment qui vraiment avait des grosses séquelles.
Virginie Bonnet, les cavalières et éthologues, on va plus longuement revenir sur l'éthologie hein, et sur parfois certaines controverses autour de l'éthologie tout à l'heure. 5h30, c'est le journal avec Frédéric Philippin, c'est la première.
Novak Djokovic a remporté cette nuit la finale de l'US Open. Le Serbe s'est imposé en 4 manches face à l'Espagnol Rafael Nadal. Le score 6-2, 6-4, 6-7, 6-1, le tout en 4h et 10 minutes. On écoute le vainqueur du jour.
C'est juste irréel, j'arrive pas à réaliser. J'ai eu une année tellement incroyable, ça continue. Mais chaque fois que je joue contre Rafa, c'est un énorme défi et je veux le féliciter pour ce grand tournoi qu'il a effectué. J'espère que nous aurons encore des matchs intenses ensemble. Mais avant tout, comme Rafael Nadal l'a dit juste avant, je veux dire ma compassion pour les familles des victimes du 11 septembre 2011. C'est plus important que le sport ici, c'est juste du tennis, on se fait plaisir, mais on ne réalise même pas combien c'est super de faire un métier qu'on aime avec votre soutien.
Et Novak Djokovic qui sait également jouer avec le public, vous l'avez entendu, et qui empoche son 10e titre de l'année, 3 grands chelems. En 2011, il compte 63 matchs gagnés pour 2 défaites seulement. Les forces fidèles à Muammar Kadhafi, mais aussi les combattants du nouveau pouvoir, les deux camps sont épinglés ce matin par Amnesty International dans un rapport de 122 pages sur les violations des droits de l'homme en Libye. L'organisation dénonce notamment les enlèvements et les actes de torture opérés par les combattants de l'opposition à l'ancien régime de Tripoli. Lui s'exprime à nouveau dans un message lu à l'antenne par le directeur d'une chaîne de télé basée en Syrie. Muammar Kadhafi rappelle qu'il ne veut pas céder la Libye aux colonisateurs. Selon ce média, l'ancien homme fort de Tripoli se trouverait toujours en Libye. Nouvelle dégringolade pour les bourses mondiales à Paris, moins 4%, Milan, moins 4% également, ou Francfort, moins 2,3%. Elles ont clôturé à la baisse, le SMI aussi à moins 2,35%. La situation financière des pays européens, Grèce en tête, inquiète les investisseurs. Des milliers d'Italiens sont descendus hier dans les rues du pays pour protester contre les coupes dans le budget de l'éducation. Alors que 8 millions d'enfants ont regagné les bancs d'école, les manifestants ont dénoncé des classes surpeuplées ou encore le manque d'entretien des bâtiments scolaires. En 3 ans, les coupes dépassent les 9,5 milliards de francs dans le secteur de l'éducation. Silvio Berlusconi se rend aujourd'hui à Strasbourg et à Bruxelles. Le président du Conseil italien tentera de rassurer les dirigeants européens sur les mesures prises par son gouvernement pour atteindre l'équilibre budgétaire. Il faut dire que la situation du pays privé de croissance est délicate. Une correspondance de Natacha Hitter.
De la puissante organisation des industriels aux syndicats, même les plus modérés, tous en Italie exigent désormais du Premier ministre un plan de relance pour la croissance économique qui ne devrait pas atteindre 1% l'an prochain. Car sans croissance, disent les observateurs, la péninsule ne réussira pas à sortir de la spirale de l'endettement, une dette publique qui atteint les 120% du produit intérieur brut et qui dissuade les investisseurs. Pendant ce temps, à Bruxelles, on somme l'Italie de maintenir ses promesses d'économie et d'en prévoir d'autres au cas où le plan d'austérité ne suffirait pas. Il faut dire qu'en arrière-plan se profile la situation toujours plus tragique de la Grèce et sa possible faillite, qui fait craindre, pour les pays les plus endettés, l'Italie en tête. Alors dans la péninsule, nombreux sont ceux qui estiment qu'au-delà de la dette publique, le vrai problème de la méfiance envers l'Italie est Silvio Berlusconi lui-même et que son départ du gouvernement sera le seul moyen de rassurer les marchés. Natacha Hitter, Radio Suisse Romande, Rome.
Micheline Calmiret, la conseillère d'État Isabelle Rocha, était réunie hier soir à Genève pour évoquer la problématique de la sécurité dans la ville. La rencontre faisait suite à l'agression dont aurait été victime le fils d'un diplomate. Si rien ou presque n'a filtré à l'issue de la réunion, une analyse de la situation sécuritaire à Genève y a été réalisée. La chef de la police, Monica Bonfanti, participait également à cette rencontre. La promotion des réseaux de soins en Suisse devra passer par une conférence de conciliation. Les deux conseils n'ont pas réussi à s'entendre après plusieurs allers et retours. Les divergences portent sur plusieurs points, notamment l'incitation incitation financière qui doit pousser les assurés à se tourner vers ces réseaux. Le Conseil national ne veut pas d'organe de médiation dans la loi sur la recherche sur l'être humain. La Chambre du peuple refuse cette innovation proposée par le Conseil des États. Présentés comme des lieux d'écoute entre patients, médecins et scientifiques par une minorité rose verte, ces organes de médiation ont rencontré une forte opposition, notamment de l'UDC. La conseillère nationale UDC vaudoise Alice Glauser y était pourtant favorable.
J'étais tout à fait d'accord à ces organes de médiation parce qu'en fait, je trouvais que c'était des organes libres de toute contrainte et puis en plus, qui pouvaient représenter plusieurs cantons aussi. Donc, c'était pas un énorme paquet administratif, mais en fait, ce qui a, d'après mon avis, fait tourner la balance, surtout peut-être dans mon parti, c'est une nouvelle place étatique. On crée de nouveau un poste qui va donner lieu à de nouveaux frais et tout ça. La plupart estiment que c'est une affaire privée, s'adresser peut-être à une assurance, s'adresser à une protection juridique. C'est ça qui n'a pas passé. Il faut laisser ça au privé.
Alice Glauser, conseillère nationale UDC vaudoise, répondait à Pierre Yeni. Et puis football, début ce soir de la Ligue des Champions. Parmi les rencontres de ce mardi que je vous conseille, Barcelone, Milan AC, Borussia Dortmund, Arsenal. Coup d'envoi des parties à 20h45. Le FC Bâle fait son entrée dans la compétition demain soir. Il recevra les Roumains de Galatz.
5h36, c'était Frédéric Philippin. La météo, Sébastien Dupéret.
Une crête de haute pression s'est installée hier sur la Suisse, garantissant un temps généralement stable jusqu'à vendredi. Ce matin, le temps s'annonce assez ensoleillé, même si quelques bancs de brouillard stagnent sur le plateau. Sur le nord du pays, il faut également compter avec quelques passages nuageux. Cet après-midi, nous repasserons un temps bien ensoleillé, malgré quelques cumulus sur les reliefs. Mais dans la nuit, quelques gouttes pourront tomber sur le Jura et la Joie. Les thermomètres afficheront entre 24 et 27 degrés maximum. Demain, le ciel sera encore un peu nuageux en matinée, surtout au nord du pays. Ensuite, nous repasserons un temps bien ensoleillé sur la majeure partie des régions. Les maxima avoisineront les 22 à 25 degrés. Ces conditions généralement stables avec des températures très douces pour la saison se maintiendront jusqu'à vendredi.
Les petits matins sur la première. Nous accueillons aujourd'hui Virginie Bonnet. Elle est cavalière et éthologue.
Les petits matins, Georges Pop.
Virginie Bonnet, naissance en 1976, on le disait en première demi-heure, et en 1980, à 4 ans, vous étiez déjà à cheval.
Oui.
Hein, assez précoce. Et puis, on a parlé de votre séjour dans le Montana, aux États-Unis, où vous avez appris l'éthologie. Alors, étonnamment, lorsqu'on parle d'éthologie et d'éthologie, on a en mémoire ces images de Robert Redford qui murmure dans l'oreille des chevaux. Mais en fait, vous me disiez que l'éthologue ne murmure pas, en fait. Il ne dit rien à l'oreille des chevaux, même si il peut donner l'impression de murmurer à l'oreille des chevaux.
Exactement. Non, on ne murmure pas du tout. C'est juste une histoire d'écoute du cheval, d'observation et ensuite de comportement. Mais il n'y a aucun murmure secret
Est surtout physique.
Le contact est surtout gestuel et comportemental.
Alors, on va parler de la place des chevaux en Suisse oui. romande. Oui. On va parler aussi de l'éthologie parce que vous êtes peu nombreux et peu nombreuses, les éthologues. Vous faites partie, je ne sais pas, d'une caste presque privilégiée dans ce pays, Virginie Bonnet.
Oui, si on peut dire ça. Après, il y a beaucoup de monde qui pratique l'éthologie et il n'y a aucune législation au niveau suisse sur ce métier. Donc, c'est vrai
la qu'il profession y a un... n'est pas protégée.
Non, pas du tout. Donc, il y a un peu tout et n'importe qui qui peut faire ce métier. Malheureusement, c'est comme il y a une dizaine d'années avec les ostéopathes qui avaient une très mauvaise réputation. Maintenant, il y a un petit peu plus de règles à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ce métier est encore mal vu et mal perçu.
Alors, il y a une petite, je ne vais pas dire une polémique, mais plutôt une discussion autour de l'équitation éthologique. Hein.
Oui.
Vous expliquez d'ailleurs sur votre site internet que l'équitation éthologique porte son nom de par la volonté de l'homme ou de la femme. Hein. Mm-hmm. Vous mettez l'homme sur votre site.
Mais l'homme en général.
Oui, l'homme en général. L'homme à cheval a observé l'animal et à le comprendre avant d'établir toute communication. Ça sert à quoi, finalement, l'éthologie ?
L'éthologie, ça sert justement à mieux comprendre l'animal. J'ai eu l'occasion de faire mes armes dans un centre équestre où les gens venaient. Le cheval était déjà prêt, c'est avec une selle, une bride, on lui montait dessus. Pendant une heure, vous tourniez en rond. Et après, on redescend et on repart, on va boire le café. Pour moi, ça, c'est pas une approche équine. C'est pas du tout une approche où on a une relation avec le cheval. Je pense que l'équitation éthologique à petit niveau peut permettre une meilleure relation, une meilleure compréhension envers l'animal. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de connaître l'animal pour pouvoir lui amener quelque chose. Étant donné qu'il y a encore beaucoup de chevaux qui ont soit des problèmes comportementaux, soit physiques, je pense que, et j'espère que mon métier peut leur amener un peu plus de bien-être, en fait.
J'ai lu un certain nombre, d'articles où vous êtes cité. Hein, vous êtes assez connu dans le milieu équestre ici en Suisse romande. Il est question de discussions autour de l'équitation éthologique et du fait que l'éthologie peut, en quelque sorte, améliorer les performances, non seulement des chevaux, mais aussi des cavaliers. Parce qu'en fait, cheval-cavalier, ça forme un tout.
Ah oui, c'est un couple. C'est sûr que si on veut avancer, il faut être bien à tous les niveaux. Si le cheval n'est pas bien dans sa tête ou dans son corps, il ne va pas pouvoir être performant. Et la même chose pour le cavalier. Après, on parle d'équitation éthologique, mais tout cavalier, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des études, il n'y a pas besoin de partir une année au Montana pour avoir une petite notion de l'éthologie. Je veux dire, si vous avez un peu de sentiment, un petit peu d'idées et de ressenti, à quelque part, vous faites, si je puis me permettre, de l'éthologie. Donc, on ne réinvente rien. On a mis un mot simplement sur une pratique ancestrale, hein. Mais on a mis un mot, on a vulgarisé un petit peu le métier, simplement.
Mais vous me disiez quand même qu'il y avait des aspects extraordinairement fascinants lors de votre séjour au Montana. Vous avez vu des horsemen, comme vous les appelez, avoir une relation avec les chevaux presque magique.
Oui, alors là, complètement, c'est clair que plus on va aller loin dans la connaissance de l'animal, plus on va avoir du ressenti et de la capacité d'écoute et d'observation avec l'animal, plus on va pouvoir soigner des chevaux et de manière assez fantastique. C'est vrai que j'ai vu du travail qui a été fait aux États-Unis, qui est assez impressionnant. Mais il faut savoir que c'est des gens qui naissent aussi avec les chevaux, qui grandissent sur des chevaux et qui ont une approche complètement différente de chez nous. Et ça, je pourrais en parler des jours.
Alors, on vous appelle parfois pour aider en quelque sorte les chevaux lorsqu'ils ont des problèmes psychologiques, lorsqu'ils ont été mal débourrés, disiez-vous, en première demi-heure. Est-ce que ces chevaux, finalement, vous créez avec eux une sorte de lien affectif? Est-ce que vous les aimez, tout simplement?
Oui, je les aime de toute façon, mais après, il faut rester aussi très, très honnête. Je n'arrive pas à développer un feeling extraordinaire avec chaque cheval.
Sont des patients.
Ce sont des patients, exactement, c'est très bien dit. Et il y a certains patients avec lesquels on tisse plus de liens, d'autres un peu moins, mais c'est clair que j'ai quand même un respect immense pour chaque cheval, oui.
On parlait de vous, Virginie Bonnet, donc née à La Chaux-de-Fonds, issue d'une grande dynastie de bijoutiers de Châtelois. Vous avez choisi la voie du cheval plutôt que celle de l'orfèvrerie et de la bijouterie et de l'or. Aujourd'hui, vous êtes bien connue dans ce milieu éthologique. Je suppose que la place du cheval ne vous est pas, comment dire, indifférente en Suisse romande. Par exemple, tiens, nous avons une race indigène, la race Franche-Montagne, on en parle beaucoup. C'est important de conserver, selon vous, une race indigène ici en Suisse?
Je pense que c'est vraiment indispensable. Ça fait partie de nos gènes quand même, les chevaux. Si on regarde un petit peu en arrière, chaque famille avait un cheval chez lui. Donc ça fait partie des racines d'une région. Et je pense que c'est absolument indispensable de garder nos racines, notamment à travers les chevaux, oui. Après, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de mélanges. On perd un petit peu des fois la race pure et il faut faire très attention. On appelle ça des studbooks. Faire très attention de toujours garder la race pure. Hein. Autrement, on va rajouter des races extérieures et on va perdre la race pure.
Et puis, il y a aussi l'avenir controversé, dirons-nous, du centre d'Avenches.
Oui.
C'est important, je pose la question très naïvement, de conserver ce centre.
Bah, tout comme la race du Franche-Montagne, je pense que c'est très important. Et ça, si vous observez un petit peu la France, qui a tout un réseau équestre très très développé, que ce soit au niveau des courses, qu'au niveau des haras nationaux, je pense qu'en Suisse, c'est quand même la moindre des choses de garder cette racine culturelle qui est le cheval.
Alors la place du cheval, hein, on ne se rend pas compte, mais je découvrais que, tenez, pour cet été, l'été qui est en train de s'achever, hein, course de chars romains à Saint-Légier, jumping de Villard-Grillon, concours hippique de Verbier, festival équestre de Sion, concours d'attelage, d'équitation et de voltige du chalet à Gobet près de près de Lausanne, oui. Puis beaucoup d'autres manifestations. On ne se rend pas compte, lorsqu'on ne fait pas la liste précise, du nombre de manifestations ici en Suisse romande autour du cheval.
Ah oui, c'est énorme. C'est énorme que ça soit, comme vous dites, de l'attelage, du concours hippique, du dressage. Il y a énormément d'activités autour du cheval. Et je n'ai pas les chiffres en tête, mais le nombre de chevaux et le nombre de pratiquants en Suisse romande est énorme. Énorme.
Y a-t-il une sorte d'amour particulier du Suisse romand à l'endroit des chevaux, peut-être, de lien?
Non, je pense pas, parce qu'en Suisse allemande, c'est la même chose. En France, où j'ai eu l'occasion de faire mes études, c'est quand même la troisième fédération où il y a le plus de licenciés en France. Donc, il y a le football, le judo et ensuite l'équitation. Je n'ai pas les chiffres en Suisse, mais c'est vrai qu'on est étonnamment surpris du nombre de cavaliers.
De manifestations, de cavaliers. Ah, oui. Je montais, tiens, au Locle ce week-end pour la Foire du Livre. Et il y avait une manifestation au Mont Cornu, à la Chaux-de-Fonds, autour des chevaux.
Tout
très joli
fait.
Coin d'ailleurs.
Un très joli coin, très charmant, où il y a un concours hippique et la famille Lutti qui organise ce concours fait vraiment des jolies manifestations.
Et puis le cheval revient. On le voit pour des raisons notamment écologiques. On retrouve des chevaux dans le monde agricole, peut-être pas, mais dans certaines forêts. On retrouve des chevaux de plus en plus dans les centres-villes avec des policiers montés. On trouve des chevaux dans certaines villes qui sont utilisées par la voirie. Donc petit à petit, il semble que le cheval revient et qu'il refait son apparition dans des villes, dans des endroits où il avait pratiquement disparu.
Petit à petit, bien trop peu à mon goût, parce que je trouve que ce serait vraiment charmant d'avoir de plus en plus de chevaux qui font des travaux de service public. On voit dans certains villages aussi, pas en Suisse, mais dans certains villages, les chevaux ramassent les ordures. Je veux dire, ils ont une charrette derrière eux, ils ramassent les ordures et je trouve que
ça pollue pas. Le crottin, mais voilà.
Ça reste entre guillemets naturel, ouais. et je trouve que c'est bien plus charmant un bruit de fer à cheval qu'un bruit de moteur. Donc, ce serait magnifique de pouvoir revenir un peu en arrière.
Ouais, vous venez d'une région d'ailleurs où le cheval a encore une utilité touristique, hein, puisque bon, vous êtes à la Chaux-de-Fonds, mais enfin un peu plus loin, dans les Franches-Montagnes, dans le Jura, on peut faire des magnifiques balades à cheval, ou même en famille avec des attelages et des sortes de caravanes.
Exactement, il y a beaucoup d'activités autour de cheval, notamment dans le Jura.
Oui. Mais vous, l'éthologue, la cavalière, finalement, ça doit vous réjouir, ce retour, même peut-être encore trop peu discret selon vous, du cheval.
Ça doit vous réjouir. Je trouve ça super, et j'encourage toute nouvelle approche avec le cheval, que ça soit d'ordre service public ou de manière privée. Mais c'est vrai qu'à la Chaux-de-Fonds, il y a une personne qui a un certain âge qui va encore chercher, amener le lait à la laiterie avec son cheval. Et c'est magnifique de le voir traverser la rue principale au milieu de toutes les voitures et de le voir avec son vieux canasson traverser la ville et son lait. Et je trouve que c'est un magnifique clin d'œil.
Et les voitures s'arrêtent.
Hein. Ah, les voitures
elles
sont
s'arrêtent.
Très respectueuses.
Il y a une forme de respect lorsqu'il y a un animal.
Oui, l'étonnement aussi. Ouais. Bon, maintenant, à la Chaux-de-Fonds, on a l'habitude de le voir. Mais je trouve magnifique et ce serait joli de voir
ça. Et on peut
ça.
Rappeler que on peut faire appel à vous lorsqu'on a un problème relationnel avec un cheval, car vous êtes éthologue, donc vous vous occupez de cela. Vous êtes, on le dira, une des rares éthologues, pour faire la liaison de ce pays. C'est un privilège en définitive.
C'est un privilège. Il faut travailler pour y arriver. Et puis c'est vrai que nous sommes pas beaucoup à pratiquer ce métier d'une manière. D'une manière ou d'une autre. Et oui, voilà, j'essaye de faire un maximum pour aider le cheval et le cavalier, bien souvent. Oui.
Apparemment, ça vous permet de vivre correctement quand même.
Ça me permet de vivre tout à fait correctement et surtout épanoui.
5h et bientôt 48 minutes. Notre invitée, Virginie Bonnet, elle est cavalière, éthologue. Elle habite dans la région de la Chaux-de-Fonds, je crois qu'on peut le dire.
Oui.
Paradise, 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 paradise.
Paradise, un tout nouveau single extrait du prochain album des Anglais de Coldplay, Milo Xiloto, qui est attendu le 21 octobre prochain. Autant d'informations que me donne François Piton, notre programmateur. Tiens, j'en profite pour le remercier. Il est 6h10. Voilà, c'est plus simple à dire.
Les petits matins.
Et à la demande de notre invitée, l'éthologue Virginie Bonnet. Virginie, je vais vous proposer de prendre vos écouteurs qui sont là pour entendre, voilà, de votre côté. Voilà. À la demande de notre invitée, l'éthologue Virginie Bonnet, nous faisons sonner notre réveil matin du côté de Sasfeu, je crois, chez Monsieur Sébastien Jordan. Bonjour, Monsieur Sébastien Jordan.
Oui, bonjour.
Vous êtes commandant de la police de Sasfeu. Alors, on parlait avec Virginie Bonnet du retour des chevaux dans les villes et dans certaines bourgades, dirons-nous, ou stations. Ben, c'est le cas chez vous. Hein. Vous avez acheté deux chevaux. Vous avez décidé de promouvoir la police montée à Sasfeu. C'est une activité encore très rare en Suisse. Je suppose que vous en êtes satisfait, que ça se passe bien à Sasfeu.
Oui, tout à fait. Depuis le 1er juillet de cette année, en accord avec les autorités communales, nous avons décidé de mettre en place cette police montée ici à Sasfeu, qui a très très bien été acceptée par la population. Ça nous a permis aussi, il faut aussi comprendre l'environnement de Sasfeu. Donc Sasfeu est un village qui est interdit à la circulation, donc entièrement piétonne. Et ce que nous avons voulu faire, c'est, vu que c'est un village touristique, privilégier la communication et la sensibilisation avec nos citoyens. Et grâce à la police montée, la communication a été rendue plus facile.
Ouais.
Et même les enfants, ça crée l'admiration des parents. On a vraiment ce contact qu'on n'avait pas avant.
Vous avez l'impression que le couple policier ou policière, cheval ou jument, tant qu'à faire, c'est un couple qui inspire davantage de respect et de sympathie auprès du public.
Oui, tout à fait. Je peux dire, on peut donner que du positif avec cette police montée.
Et puis, naturellement, dans une station comme Sasfeu, c'est un argument touristique aussi d'avoir des policiers, une police montée.
Oui, je crois que dans l'ensemble, les chevaux sont bien accueillis. On croise les gens, donc ça donne. C'est vraiment en adéquation avec l'image touristique de la station qui se veut piétonne ici.
Bah écoutez, je suppose que l'exemple de Sasfeu, puisqu'il marche apparemment bien, pourrait inspirer d'autres stations, d'autres villes. Virginie Bonnet, vous qui êtes éthologue, est-ce que pour la police montée, il faut des chevaux, pour les chevaux, une éducation particulière, un feeling particulier?
Oui, je pense qu'une chose qui est très importante, c'est d'avoir des chevaux qui ne sont pas peureux. Parce que, bon, peut-être qu'à Sasfeu, c'est quand même un endroit relativement calme, mais si vous voyez la police montée de New York, par exemple, ou la police montée lors de manifestations, vous devez avoir des chevaux qui sont très très courageux. Et il y a des entraînements qui se font, auxquels j'ai pu participer, qui sont assez impressionnants. Après, Sébastien, lui, éduque ses chevaux à sa manière et ça marche très bien.
Vous avez l'air de bien vous connaître avec Virginie Bonnet, Sébastien Jordan. Vous faites appel à elle en tant qu'éthologue pour, améliorer encore les performances de vos chevaux et établir une meilleure complicité entre les policiers qui montent et les chevaux qui sont montés.
Voilà, tout à fait. Donc les chevaux, je les ai durant 5 à 6 mois durant l'année. Ils sont ici avec moi à Sasfeu. Et durant l'hiver, je les amène chez elles sur la vallée de la Sagne pour pouvoir suivre l'éducation de nos chevaux. Et c'est clair, de mon côté, il faut déjà trouver des policiers qui veulent monter à cheval parce que c'est quand même certains ils craignent les chevaux. Et j'ai aussi constaté de mon côté que ça permet aussi de relever le caractère de mes collègues, tout ce qui est stress, impatience.
C'est le test, le bizutage.
Oui, c'est un excellent moyen thérapeutique pour les nerfs, mes collègues.
Parfait. Bah, écoutez, que des avantages. Je vous remercie infiniment, Sébastien Jordan, de nous avoir rejoints. C'était un plaisir de vous entendre. Et surtout, c'était très, très intéressant de constater que finalement, vous apportez l'exemple manifeste que les chevaux ont encore leur place dans nos villes, dans les stations, à divers égards. Merci beaucoup, Sébastien Jordan. On vous souhaite une bonne fin d'été du côté de Sasfeu.
Très bien. Merci à vous. Bonne journée.
La démocratie, c'est vous.
La rédaction de la RSR vous invite à écouter et participer aux débats cantonaux pour l'élection des deux représentants de votre canton au Conseil des États. Le 13 septembre à 18h, retrouvez Philippe Reva et ses invités en direct de la salle du Bicentenaire à Lausanne. Informations, inscriptions et dossiers complets sur rts.ch/élections.
Virginie Bonnet, l'heure de se séparer. On rappellera que vous êtes cavalière, mais surtout éthologue. Et ma foi, les gens qui veulent mieux se familiariser avec l'éthologie peuvent tout simplement aller sur votre site internet. Vous expliquez tout ça fort bien. Site internet très complet.
Merci.
Et puis tous ceux qui ont des chevaux peuvent faire appel à vous hein, s'ils ont
bien
un
sûr.
Souci.
Ou ne serait-ce que pour
soucis de quelle nature ?
Oh, c'est surtout des soucis de comportement, c'est-à-dire qu'un cheval peut devenir peureux pour X raisons, ou agressif, ou rétif à quelque chose. Donc c'est tout type de problèmes qui peuvent être réglés. Mais notamment aussi l'éducation basique oui. d'un cheval, ou le débourrage, comme je disais, mettre le cheval sous la selle et pour la première fois. Donc j'ai quand même une ouverture assez large du métier.
Vous apaisez les âmes des chevaux.
J'essaye.
Merci en tout cas, vous avez
Merci
apaisé
infiniment.
Les nôtres aussi ce matin,
Très
j'espère.
Bien.
On vous souhaite un bon retour à la Chaux-de-Fonds
et une bonne
continuation.
Merci beaucoup.
Il est 5h, bientôt 57 minutes. Inutile de vous présenter Madame Véronique Sanson, celui qui n'essaye pas, ne se trompe qu'une seule fois. Voilà. Le don du sang aujourd'hui, à Grandson dans le canton de Vaud, à la salle sur les quais, de 15h à 19h30, à Romont dans le canton de Fribourg, à la maison Saint-Charles de 16h30 à 20h30, et au service de transfusion vaudois et palinge sur Lausanne, au terminus des croisades du M2 de 8h30 à 19h. Bonjour Simon Mathédoré.
Bonjour Georges Pop.
Vous allez bien ce matin ?
Oui, ça va. Je cherche la souris.
Ah, vous cherchez la souris. Bah écoutez, mettez un piège, vous réussirez à la capturer.
Essayez.
Demain, nous recevrons le maire de Reconvilliers dans le Jura bernois, monsieur Flavio Torti. Je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire, hein, parce que sa commune a été passablement dans l'actualité, peut-être un peu malgré lui, hein, malgré elle.
Oui, on a l'impression que ça fait 30 ans que ça dure, entre la Boya, Swiss Metal, ouais. L'histoire ne fait que se répéter de ce côté-là.
Mais enfin, il peut aussi y faire bon vivre, hein, à Reconvilliers.
Bien sûr.
Voilà, nous verrons tout ça demain. Je vous souhaite une excellente matinée, bon journal.
À vous aussi, bonne journée.
Infotrafic RSR.
Avec le parking de la Riponne et son service Riponne Express.
Les conditions de circulation sont bonnes ce matin en Suisse romande. Le trafic s'écoule pour l'heure sans encombre sur l'ensemble du réseau routier. L'autoroute Sion-Brigue est à présent fermée entre les jonctions de Viège-Est et de Brigue-Glisse en direction de Brigue. Des travaux se déroulent jusqu'à 17h sur ce tronçon. Une déviation a été mise en place.
Infotrafic RSR en collaboration avec les CFF et le TCS.
La météo, Sébastien Dupéret.
Une crête de haute pression s'est installée hier sur la Suisse, garantissant un temps généralement stable jusqu'à vendredi. Ce matin, le temps s'annonce assez ensoleillé, même si quelques bancs de brouillard stagnent sur le plateau. Sur le nord du pays, il faut également compter avec quelques passages nuageux. C'est après